Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Oh, que c'est dommage, parce que des millions de personnes dans ce pays, eux, l'ont vécu, ou elles l'ont vécu, et si elles étaient gosses à l'époque, elles n'ont pas oublié la peur, le mystère, la fascination qu'exerçait sur elles une série télévisée devenue phénomène de société, Belphégor. L'histoire d'une série télévisée incroyable, diffusée en mars 65, elle raconte, en 4 épisodes de 70 minutes, l'histoire d'un fantôme masqué qui hante le département d'égyptologie du musée du Louvre. Disparition, agression, mort suspecte, tous les ingrédients d'un bon mystère sont réunis. Devant le petit écran, les Français se prennent de passion pour ce qu'on appelle encore un feuilleton. Et bientôt, on ne parle plus que de ça. Dans les cafés, à l'école ou dans les bureaux, on se répand en hypothèses et conjectures pour tenter de répondre à la question qui se cache derrière le masque de Belphégor. Mais pourquoi cette fiction a-t-elle autant marqué les esprits? Et serait-elle la précurseur de la série télé moderne? Notre invitée aujourd'hui, Marjolaine Boutet, historienne, spécialiste des séries justement, et auteure du livre intitulé « Un village français, une histoire de l'occupation » paru en 2017 aux éditions La Martinière. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Guillaume Ballandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Samedi 6 mars 1965, 20h30. C'est un week-end calme de fin d'hiver dans la France du général de Gaulle. C'est le temps où, disait Vianson-Ponté, la France s'ennuie. Dans les villes, les rues se vident peu à peu et les derniers passants pressent le pas pour rentrer chez eux. Progressivement, alors que le calme revient et que la nuit s'installe, les intérieurs s'éclairent et les murs des salons commencent à scintiller. Il faut dire que depuis quelques années, un nouvel objet s'est invité dans des millions de foyers à travers le pays, une boîte lumineuse capable de captiver l'attention de n'importe qui, la télévision. Ce samedi 6 mars, le premier épisode d'une nouvelle série, ou plutôt d'un feuilleton comme on dit alors, doit être diffusé sur la première chaîne de l'ORTF. Ça s'appelle Belphégor, signé par un grand nom de la télévision, Claude Barma. À 47 ans, ce réalisateur a déjà créé de nombreux programmes. Il est considéré comme un pionnier du petit écran. À 20h30, après le journal télévisé, le générique annonce la couleur. Noir et blanc charbonneux sur lequel des images de Paris se succèdent, avant de se fixer sur le Louvre. Car c'est ici que l'intrigue commence, plus précisément au sein du département d'égyptologie. Un matin, l'un des gardiens de nuit du célèbre musée raconte à ses supérieurs son étrange rencontre avec ce qu'il appelle un fantôme, la veille au soir.
Hier au soir, je l'ai expliqué à M. Parusso. Je faisais ma ronde, il était 2h. J'arrive dans les salles du bas, la lune donnait à fond, j'ai coupé ma lampe. Tout me semblait normal. Soudain, je le vois.
Qui ?
Lui, le fantôme. Il était là, je sais pas, à 2 mètres de la statue du dieu barbare.
Qu'avez-vous fait ?
J'ai tiré. Tiré. Mais oui, et c'est là que ça devient fantastique. À cette distance, il n'est pas possible que j'y ai pas mis au moins une balle dans la cible. Il n'a pas bougé.
Et ensuite ?
Ensuite, un dieu berthe.
C'est-à-dire ?
Il avait disparu.
Vêtue d'une longue robe noire et d'un masque en cuir, la créature terrifie les millions de Français installés derrière leur poste. Très vite, on lui donne un nom, celui de la statue du dieu égyptien qui semble l'attirer, Belphégor. Bientôt, un premier drame se produit. Le chef de la sécurité du musée retrouvé mort. Un célèbre policier est donc dépêché sur les lieux, le commissaire Ménardier, incarné par René Darry. Mais il n'est pas le seul à se passionner pour l'affaire. En effet, un jeune étudiant, André Bellegarde, interprété par Yves Régnier, genre jeune premier un peu exaspérant tellement il est beau celui-là, enfin, commence lui aussi sa propre enquête. Dans un Louvre déserté, il se lance sur la piste du fantôme et très vite, le tout Paris connaît son nom. Grosse tête en plus. Mais surtout, le jeune homme fait plusieurs rencontres décisives. Ainsi, fine mouche, il s'éprend de la fille du commissaire Colette. Mais une autre femme tente de le séduire, l'énigmatique Laurence. Incarnée, elle, par Juliette Gréco, elle promène son charme vénéneux dans les couloirs du musée et attire le jeune homme jusqu'à chez elle.
C'est votre nom, André Bellegarde ?
Naturellement.
Parlez-moi.
Quel intérêt une vie d'étudiant ? Il n'y a que depuis que je m'occupe de Belphégor. Fantastique. Le paysage s'est mis à changer autour de moi à une vitesse grand V. Ce qui m'arrive ce soir n'est pas le moins étonnant.
Mais qu'est-ce que ça a d'étonnant ?
Pour vous, peut-être.
Enfin, vous êtes une vedette.
Mais même pour une vedette. Alors pourquoi ?
Pour vous séduire.
Peu à peu, autour d'André, le mystère s'épaissit. Ainsi, le commissaire Ménardier reçoit-il des menaces ? On exige qu'il abandonne ses recherches sur Belphégor s'il ne veut pas que Colette soit blessée. Lors de la séquence finale, coup de théâtre.
Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Oh, j'en sais rien.
Comment vous n'en savez rien ?
Ben non, j'ai dû perdre connaissance.
On vous a attaqué ?
Je sais pas. En tout cas, j'ai rien senti.
Bon, allez vite à la maison.
Alors, Colette a-t-elle été agressée ? Et pourquoi vouloir à tout prix stopper l'enquête du commissaire ? Lorsque le générique de fin de ce premier épisode défile, les téléspectateurs retiennent leur souffle. Pour l'ORTF, le succès est immédiat. En tout, plus de 15 millions de personnes ont suivi les aventures d'André et de Colette dans les couloirs du Louvre. Le chiffre est phénoménal. Il représente presque un tiers des habitants du pays. Le lendemain, dans les rues, dans les cafés, tout le monde n'a qu'un mot à la bouche, Belphégor. De Lille à Marseille, de Brest à Strasbourg, on passe en revue chaque détail de l'épisode et on lance des hypothèses sur l'identité du fantôme. Alors, qui se cache derrière le masque ? Tout le pays plonge dans le mystère, comme le fait entendre ce micro-trottoir réalisé par l'ERTF au lendemain de la diffusion.
C'est un feuilleton, mais réellement qui tient debout, vous comprenez ? Oui, ça, j'aime bien Romain Desbois, des trucs comme ça. C'est très bien, mais ça vaut pas Belphégor.
Ce qui m'a plu vraiment énormément, c'est que tout était équilibré. Tout ça, c'est une des rares émissions depuis quelques temps qui est vraiment très bonne. Alors René Darry et Gréco m'ont vraiment surpris parce que je les connaissais déjà, mais alors là, je les ai aimés tout particulièrement.
En cette année 1965, la série télévisée est un genre encore récent, en tout cas en France, parce qu'aux États-Unis, voilà une quinzaine d'années que ce type de fiction fait recette. Pourtant, en France, et contrairement aux apparences, raconter des histoires segmentées en épisodes n'est pas un exercice si nouveau que cela. Cette forme littéraire remonte même à 1836, avec l'apparition du premier du genre, La vieille fille de Balzac, paru dans un quotidien appelé La Presse, près de 130 ans plus tôt. Dès le milieu du 19e siècle, le genre fait école et se répand dans les quotidiens parisiens. Très vite, tous proposent une rubrique dédiée à la fiction. On trouve même un nom à ce nouveau format, le roman feuilleton. Au niveau de la dramaturgie, une astuce est mise en place par les auteurs pour inciter les lecteurs à acheter le numéro suivant. Autrement dit, finir chaque épisode par un coup de théâtre, un bouleversement de l'histoire qui pose bien souvent plus de questions qu'il n'en résout. Et ça marche. Ainsi, la France se passionne pour les aventures des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas ou encore des Mystères de Paris de Genesu. Mais cette évolution esthétique n'est pas du goût de tout le monde. Certains critiques, conservateurs pour la plupart, sont même furieux. Pour eux, la littérature est un art majeur, élitiste, qui n'a pas sa place dans des colonnes de papier bon marché qu'on jette à la poubelle en fin de journée. Pire encore. La forme commerciale du feuilleton encouragerait les auteurs à privilégier le suspense facile à la recherche esthétique. Ainsi, le roman feuilleton représenterait la décadence de la culture moderne, comme l'explique le critique Alfred Nettement, qui en 1861 le dit clairement.
l'art peut souffrir des conditions dans lesquelles il se manifeste. Si la publication du livre par tronçon doit avoir une influence mauvaise sur les procédés de composition et de style. On aime surtout dominer l'imagination par des menaces de terreur. L'idéal est de montrer, à la fin du numéro, un bras sortant de la muraille et tenant une tête ensanglantée. Puis, l'on pose en deux alinéas cette double question. Quel est ce bras? Quelle est cette tête? Et l'on remet au prochain numéro une réponse que l'auteur souvent n'a pas encore trouvée.
Malgré les objections de certains, la fiction à épisodes s'enracine dans la culture populaire tout au long du XIXe siècle. Mais ce n'est pas tout. De nouveaux médias voient le jour et permettent au format de se décliner. C'est le cas d'une machine apparue en 1895, le cinématographe. Pour la première fois, des gens bougent sur un écran. Le succès est immédiat, les films se multiplient et toute une économie s'organise. À la différence de la littérature, le cinématographe ne s'embarrasse pas, du moins au départ, de considérations très esthétiques après tout. Il est d'abord une attraction de foire, pas une forme artistique. Alors, dès les premières années d'exploitation, les ficelles employées dans les romans feuilletons sont réactivées. Les films à épisodes ou sérioles voient le jour. Dès le milieu des années 10, ces films muets, séquencés en plusieurs épisodes, sont diffusés semaine après semaine dans une même salle de cinéma. Et comme pour le rayon littéraire, chaque segment se termine par un cliffhanger, un rebondissement inattendu qui relance le mystère, avec un objectif très clair, faire revenir les spectateurs. La stratégie fonctionne et on se bouscule dans les salles pour voir les aventures par exemple de Judex ou de Tarzan. Quelques années plus tard, dans les années 20, un nouveau média fait son apparition, vous y êtes, la radio. Désormais, grâce à un simple boîtier, on peut écouter des voix et des sons venus du monde entier, tout en étant installé confortablement dans le canapé du salon. Et c'est ainsi que des fictions à épisodes spécialement pensées pour la radio voient le jour. Ainsi, dans les années 50, des millions de Français écoutent religieusement Ciné Furax de Pierre Dac et Francis Blanche sur les ondes de la RTF. J'en profite pour rappeler que cette tradition quasi-séculaire de la fiction radiophonique survit aujourd'hui même avec les fictions d'affaires sensibles. Et oui, au même moment donc, et revenons dans les années 50, une invention commence à faire parler d'elle, la télé. Ce meuble en bois traversé par un tube cathodique relié à un écran va changer la culture populaire à tout jamais.
Qu'est-ce que la télévision? Jacqueline Joubert, présentatrice à la télévision, vous explique ce fonctionnement.
La caméra électronique qui se trouve devant moi est reliée par câble à l'antenne de la Tour Eiffel après passage dans les différents services techniques qui contrôlent l'émission. La Tour Eiffel, de son côté, émet les ondes qui portent mon image jusqu'à votre écran personnel.
Dès la fin des années 40, les premiers feuilletons télévisés voient le jour aux États-Unis. Ils s'inspirent à la fois des films à épisodes et des dramatiques radiophoniques. En quelques mois à peine, le format traverse l'Atlantique. En France, le premier feuilleton télévisé s'appelle « Agence Nostradamus ». Tourné en 1950 avec un budget dérisoire, il est réalisé par un jeune homme de 32 ans, un certain Claude Barma. Le futur réalisateur de Belphégor est alors l'un des premiers créateurs français à s'intéresser à cette nouvelle forme de fiction. Mais sa rame, Agence Nostradamus, peine à rencontrer son public. Et pour cause. Au moment de la diffusion en 1950, à peine 10% du territoire est couvert par le réseau hertzien, principalement Paris, et la petite couronne grâce au relais de la Tour Eiffel. Mais surtout, la télé reste un objet coûteux, réservé aux classes les plus aisées. En tout, on dénombre seulement 3700 postes dans le pays. Alors, on va voir la télé dans la rue, le foot surtout, va Puskás, le Hongrois, en noir et blanc. Mais quel talent! Une époque, car quand les mois qui suivent, le prix des écrans diminue et le réseau de diffusion s'étend, la télé arrive dans tous les foyers, enfin presque. De grands événements mondiaux sont retransmis en direct, comme le couronnement d'Elisabeth II en 1953. Et surtout, la croissance économique atteint des records et l'Occident entre dans une période marquée par la prospérité. Ainsi, la télévision s'implante-t-elle dans le quotidien des Français ? En 1956, 6 ans après la diffusion d'agence Nostradamus, on compte 500 000 postes dans l'Hexagone. L'évolution est irrésistible. 7 ans plus tard, en 1963, on dénombre près de 4 millions de téléviseurs. L'heure est à l'insouciance, la guerre d'Algérie est terminée, alors la jeunesse qui n'est plus menacée d'être transformée en chair à canon dans les Aurès danse au rythme de la musique yéyé. Dans les salons, la télé bouleverse le quotidien des Français. Avec elle, le cinéma, les actualités, la culture et surtout le divertissement deviennent accessibles au plus grand nombre, comme en témoigne ce reportage de juillet 1963 qui donne la parole à 2 adolescents qui évoquent leur rapport au petit écran.
Au point de vue culture, la télévision est très bonne parce qu'elle procure aux adultes la possibilité de connaître les endroits où ils n'ont jamais été et aux enfants de prendre conscience du monde qui les entoure.
Et au point de vue danger, alors ?
Au point de vue danger, quand certaines personnes ouvrent la télévision parce qu'il y a quelque chose à voir et non pas parce qu'une émission les tente, alors ils regardent n'importe quoi.
C'est la force de l'habitude. Et vous, monsieur ?
La télévision, oui, malgré les dangers que ça comporte pour les yeux et pour les nerfs. Mais malgré tout ça, on a chez soi, à peu de prix, la culture, l'information et les distractions.
En quelques années à peine, cette étrange lucarne s'affirme comme un fait de société puissant. Le paysage médiatique et culturel est bouleversé, la demande de contenu explose et une véritable industrie se met en place. D'ailleurs, aux États-Unis, d'importants moyens sont déployés et des feuilletons plus ambitieux voient le jour, comme Zorro ou encore Les Incorruptibles sur ABC. Tous puisent alors leur inspiration dans les grands thèmes de la culture américaine, comme le policier ou le western. En France, un réalisateur est attentif à cette évolution. C'est Claude Barma. Il comprend qu'il est désormais possible de créer des épisodes plus longs qui racontent de véritables épopées. Il décide alors de s'inspirer à son tour de la culture populaire nationale et propose d'adapter une forme littéraire tombée depuis en désuétude, le roman feuilleton. À la rentrée 62, 12 ans après Agence Nostradamus, Claude Barma propose à la RTF d'adapter pour la télé une œuvre d'Alexandre Dumas, le chevalier de Maison Rouge. L'histoire raconte les aventures d'un chevalier donc, parti libérer Marie-Antoinette au lendemain de la Révolution. Les 4 épisodes de 70 minutes sont diffusés chaque samedi du mois de mars 63. Et le succès est au rendez-vous. Des millions de Français sont captivés par les aventures du chevalier. Pour Claude Barma et RTF, le pari est réussi. C'est le premier grand feuilleton français. Et grâce à ses influences littéraires, le genre acquiert ses lettres de noblesse. Dans une interview d'époque, le réalisateur explique l'influence de la culture romanesque sur son travail de création.
Je pense qu'il y a un problème en télévision qui est toujours de retenir l'attention du spectateur. Et la télévision est pour moi un problème de permanence. Et je crois qu'il faut avoir une certaine présence sur l'écran. Donc, j'ai pensé qu'il serait intéressant de voir dans la littérature même mondiale des œuvres assez fortes pouvant faire l'objet de plusieurs soirées, c'est-à-dire retrouver un petit peu ce qu'étaient les séries au cinéma à l'époque du muet. La première idée a été Le Chevalier de Maison Rouge. Pourquoi ? Parce que, pas spécialement à cause de Dumas, parce que c'était un Dumas inconnu que j'ai découvert un jour et qui m'intéressait parce que on retrouve des situations exceptionnelles, des situations politiques, des situations sociologiques assez exceptionnelles dans lesquelles, je pense, les êtres humains peuvent se décupler et montrer ce qu'ils ont de meilleur ou de pire en eux. C'est autrement dit l'état de crise de l'être humain à travers ces périodes qui m'intéressent.
Après ce premier grand succès, de nouveaux feuilletons sont produits. Tous ou presque suivent l'exemple de Barma en empruntant des éléments à la culture historique nationale, à l'image du célèbre Thierry Lafronde à la fin de l'année 63 ou encore de Rocambole en avril 64. Dès lors, la télévision s'affirme comme le moyen moderne et populaire de raconter des histoires. Du côté du pouvoir politique, ils sont nombreux à comprendre l'intérêt de ce nouveau média, et tout particulièrement le chef de l'État, le général de Gaulle. Il faut dire qu'en 64, la télévision, tout comme la radio, sont encore sous le monopole de l'État. Par l'intermédiaire d'un organisme né au lendemain de la guerre en 49, la radiodiffusion télévision française, ou RTF. L'audiovisuel est alors sous le contrôle strict du gouvernement en la personne du ministre de l'Information. Cependant, et malgré seulement 15 années d'existence, force est de constater que la RTF est déjà obsolète. L'évolution rapide des programmes et des réseaux de télévision ont transformé durablement le paysage audiovisuel français. Alors, le pouvoir politique et le général de Gaulle en tête décident de moderniser l'organisme. Ainsi, le 27 juin 1964, la RTF laisse place à l'ORTF, ou Office de Radiodiffusion Télévision Française. Grâce à de nouveaux statuts, l'institution dispose désormais de plus de moyens et d'une plus grande autonomie. L'objectif du pouvoir est clair, faire de l'ORTF une vitrine de l'excellence française. Comme le rappelle Vladimir d'Ormesson, le premier président de l'institution.
Nous nous efforcerons tous de faire de l'ORTF un service public de plus en plus digne de la nation française.
Dès la fondation de l'ORTF, des moyens considérables sont injectés dans le feuilleton télé. C'est que la direction doit faire face à un défi de taille, contrer le succès grandissant des séries américaines. En effet, voilà quelques mois que l'audiovisuel public a acheté les droits de plusieurs feuilletons étrangers. Et l'audience est au rendez-vous. Ils sont des millions à suivre tous les soirs les aventures de Zorro ou des Incorruptibles. Alors, pour limiter cette influence culturelle grandissante de l'oncle Sam, les têtes pensantes de la toute nouvelle ORTF décident de marquer le coup et de développer un feuilleton français prestigieux. Et naturellement, on fait appel à Claude Barama. Son récent succès du Chevalier de Maison Rouge a montré qu'il était possible de produire une fiction française et populaire. Ainsi, le réalisateur propose une nouvelle création, Belphégor. Écrit en collaboration avec Jacques Armand, le scénario s'inspire du roman fantastique homonyme d'Arthur Bernet, paru en 1927, une histoire de fantôme qui hante les couloirs du Louvre. Claude Barba a alors une intuition lumineuse. Utiliser cette atmosphère de mystère pour construire une tension dès le début du récit autour de l'identité du fantôme. Toute l'originalité de Belphégor est là, mettre les téléspectateurs dans une démarche active de recherche et de jeu face à la fiction. Grâce aux moyens importants dont il dispose, Claude Barma peut se permettre d'employer quelques têtes d'affiche. René Darry, François Chaumette, mais surtout Juliette Gréco. En cette année 1964, voilà une quinzaine d'années que l'interprète de 37 ans pose son regard noir sur le public des salles de spectacle. Cet éternel introverti, proche de Boris Vian et de Miles Davis, jouit alors d'une aura certaine dans les milieux artistiques de la rive gauche. Et bientôt, c'est tout le pays qui connaîtra son nom.
Affaires sensibles sur France Inter.
Ne vaudrait-il pas mieux dormir plutôt que de vouloir savoir fermer les yeux et s'endormir sans se chercher dans un miroir. Parce qu'une ombre sans visage, la nuit au Louvre est de passage. Ils voudront tous tenter le sort et savoir qui est Belphégor.
est-ce un vampire, un voleur d'âme? Et quand on pense le tenir, il s'évapore dans le décor, ou bien il frappe et donne la mort. Il aurait mieux valu dormir, aimer, rêver, ne rien savoir, fermer les yeux et t'endormir. Apprends bien garde à Belphégor. Ce météore de la nuit noire, tu crois que tu vas le saisir, mais quand on est, on veut savoir, et quand on sait, on peut mourir. Crois-tu, petite, qu'il soit très sage d'ôter le masque des visages? Ah, méfie-toi de l'eau qui dort et du secret de Belphégor. Qui peut savoir ce qu'est une femme à qui l'on a volé son âme? Oui, tout arrive et pire encore, et même qu'elle soit Belphégor.
Au cours de l'été 64, les 4 épisodes de Belphégor sont tournés. Même si le budget est conséquent, le temps de tournage est serré. Il faut boucler 280 minutes de programme en 4 mois. Une fois la phase de post-production terminée, on décide de diffuser le feuilleton tout au long du mois de mars 65 sur le créneau le plus populaire, celui du samedi soir. Le vendredi 5 mars, veille de la diffusion du premier épisode, un article de Jean Calmet paraît dans le Figaro. Il annonce le feuilleton avec un certain enthousiasme.
Le samedi 6 mars 1965 au soir, la télévision diffusera sur la première chaîne le premier épisode de Belphégor, un nouveau feuilleton de Claude Marmat et de Jacques Armand. Si j'ai repris la formule du chevalier de Maison Rouge, nous dit Claude Marmat, c'est parce que je n'aime guère le feuilleton haché, découpé en d'innombrables petits épisodes de 15 minutes, que les téléspectateurs ne peuvent pas voir tous les soirs à une heure précise. Je préfère la division en 4 épisodes importants, d'une heure chacun, diffusés un samedi soir. Cela rappelle d'ailleurs les films à séries d'autrefois. J'ai voulu, avant tout, faire une sorte de télé-ciné-roman qui se déroule dans une atmosphère de réalisme fantastique et poétique. Et Belphégor, qui incarne Belphégor, c'est un secret que Claude Marmat se refuse à révéler. Ce dieu méchant ne lui pardonnerait peut-être pas.
Le lendemain, samedi 6 mars 1965, le premier épisode est donc diffusé. Comme nous l'avons indiqué au début de ce récit, le succès est phénoménal. Plus de 15 millions de Français suivent les aventures d'André et de Colette dans les couloirs du Louvre, sur les traces de ce fantôme inquiétant, auteur du meurtre d'un gardien de nuit. Le samedi suivant, 13 mars, bis repetita. Le masque maléfique de Belphégor surgit à nouveau des ombres pour terrifier les spectateurs. Et le mystère s'épaissit. Des malfaiteurs enlèvent Colette pour faire pression sur son père, le commissaire Ménardier, afin qu'il arrête son enquête. De son côté, André est emmené par Laurence, joué par Julien Greco, chez un homme menaçant et féru d'occultisme, Boris Williams. Un peu plus tard, l'enquête d'André le conduit jusqu'à une pièce souterraine secrète du musée. Et là, une scène étrange se déroule. Ce même Maurice Williams est occupé à éveiller Belphégor, alors endormi dans une sorte de rituel ésotérique. La séquence glace le sang de millions de Français.
Dans quelques instants, Belphégor, ton âme va s'éveiller à nouveau. Mais je te préviens, ce que nous allons faire ce soir est très dangereux. Nous franchirons un seuil. Aussi, je te demande de ne pas agir avec ta brutalité coutumière. Dans cette transfusion d'énergie, c'est moi qui prends tous les risques. Ne l'oublie pas. Ouvre les yeux. Entre dans mon regard. Jusqu'à l'âme, Belphégor. Jusqu'à l'âme.
Sans faire un bruit, le fantôme se lève, puis sort de la pièce avant de remonter dans l'espace d'exposition. Grâce à cette scène, les téléspectateurs comprennent que le fantôme agit sous hypnose. Ah, voilà qui explique son sang-froid imperturbable.
Bah maintenant, Belphégor, rapporte-nous le secret.
Quel est ce secret dont parle Williams? La réponse arrive dans l'épisode suivant. Il s'agit du métal de Paracels. Selon la légende, ce métal posséderait des propriétés physiques inédites permettant à celui ou celle qui le contrôle d'obtenir un pouvoir sans précédent. Et justement, un morceau se trouverait sous la statue du dieu égyptien de Belphégor. Oui, en plein musée du Louvre. Alors, Williams parviendra-t-il à s'emparer du fameux secret en manipulant le fantôme ? Le dénouement est diffusé le samedi 27 mars 65. Williams dévoile à Laurence son intérêt pour le métal, mais surtout son obsession pour le pouvoir qu'elle exerce sur Belphégor. Bien, mais qui se cache derrière le masque de cuir? Face à Laurence, le personnage interprété par Juliette Gréco, Williams fait alors une révélation fracassante. Et devant leur télé, les Français trépignent.
Belphégor, c'est vous?
Non.
C'est vous?
Non, je le serais.
Je vous plonge dans un sommeil si profond que vous oubliez tout.
Non!
Il y a en vous une sauvagerie, une cruauté dont vous ignorez tout. C'est vous qui avez tué Sabourel, je ne vous l'avais pas demandé. C'est vous qui avez attaqué André.
Non! C'est Belphégor et Belphégor seul, vous le savez très bien, il n'agit pas sans vous.
Je l'ai réveillé, oui, d'accord, mais maintenant c'est lui qui commande. En ce moment même, il s'éveille. Cette force mystérieuse qui vous envahit, qui vous étreint, qui vous submerge, c'est lui! C'est Belphégor! C'est vous!
La réponse est sans appel. Belphégor, ce monstre froid, est en réalité surgi du subconscient de Laurence avec la complicité de Williams. Bouleversée par cet aveu, la jeune femme se suicide en se jetant dans le vide. De son côté, Williams est retrouvé par Ménardier et André avant d'être arrêté. La noirceur de la conclusion est éclaircie par une bonne nouvelle tout de même. André et Colette décident de se marier. L'honneur est sauf, à défaut de l'histoire, passionnante comme un conte à dormir debout. D'ailleurs, quand le générique de fin défile, les Français sont partagés. Certains trouvent le dénouement décevant, alors que d'autres, au contraire, en vantent le côté surprenant. Il n'en reste pas moins que beaucoup ont été captivés par le feuilleton. Comme le laisse entendre ce micro-trottoir réalisé le 4 avril 1965, 8 jours après la diffusion du dernier épisode.
Est-ce que vous avez spécialement réservé les 4 derniers samedis à regarder Belphégor?
Oui, 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 enfin une partie, quoi. Oui, surtout la dernière.
Comme tout un chacun.
Oui, monsieur. Pour Belphégor, oui.
J'avais plusieurs autres sorties de prévues et je les ai annulées.
Non, je ne suis pas resté spécialement. J'ai vu, je suis arrivé, je suis tombé sur Belphégor. J'ai été pris, je suis resté jusqu'à la fin de l'émission.
Pour le 3e épisode, j'étais à une soirée. Alors naturellement, dès le lendemain, j'ai téléphoné à des amis parce que je voulais absolument savoir ce qui s'était passé.
L'émission m'a plu, mais je pense que la fin, c'était un peu confus.
C'était aussi très intéressant parce que on ne connaissait pas Belphégor, on n'a connu qu'à la fin.
Dans les cours de récré, dans les bureaux, dans les magasins, ils sont nombreux à échanger leurs impressions sur la fin du feuilleton. En un mois à peine et 4 épisodes, Belphégor s'est fait une place de choix dans la culture populaire française. Avec sa création, Claude Barma montrait toute la puissance des vocations du genre. Mieux encore, le mot de Belphégor entre dans le vocabulaire. À ce titre, quelques mois après la diffusion, le 21 février 66, son nom est cité une première fois par un dirigeant politique et pas n'importe lequel, pas le premier d'entre eux, le général de Gaulle. Alors qu'il s'exprime devant la presse à propos de l'affaire Ben Barka, il laisse échapper une petite phrase dont il a le secret, surfant sur l'air du temps.
Le ferment de l'opposition politique, attiré par l'espèce d'atmosphère à la Belphégor, que créent les vocations des mystérieuses barbouzes.
Avec Belphégor, les feuilletons deviennent un rendez-vous familier dans la vie des Français. Et dans les années qui suivent, les productions se multiplient à l'ORTF. Claude Barma n'est pas en reste. En 67, deux ans après Belphégor, il lance une adaptation télévisée de Cibenon, Les Enquêtes du commissaire Maigret, avant de créer en 1972 un nouveau feuilleton qui fait date, Les Rois Maudits, excusez du peu. Néanmoins, il ne retrouvera jamais le succès populaire qu'il a connu avec le célèbre Fantôme du Louvre. Dans les décennies suivantes, le genre du feuilleton se modernise, les rythmes s'accélèrent, la production explose et il devient une véritable industrie culturelle. D'ailleurs, le nom du format change aussi, désormais on dit série. Pourtant, les bases formelles posées par les pionniers subsistent. Depuis Belphégor, les structures narratives ont assez peu évolué finalement. Un mystère originel dénoué à la fin seulement, des rebondissements inattendus au milieu, un soupçon de romance un peu partout, et surtout, le truc addict, l'épisode qui se termine par le début d'un suspense insoutenable. Non, les bouffons.
Comme celle d'un fantôme. Ma chair est imprenable et manque de consistance pour une vie intense. Comme celle d'un fantôme, mon âme est aérée, mon esprit se disperse et manque de volonté. Se répète, ne fait que s'envoler. Comme ceux d'un fantôme, mes sentiments s'embrouillent dans ce nuage épais. Je ne peux décider.
Écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui Belphégor. Notre invitée Marjolaine Boutet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes maîtresse de conférence habilitée à diriger des recherches donc en histoire contemporaine à l'université de Picardie, auteur de Cold Case, La mélodie du passé, c'est joli comme titre.
Merci.
Paru en 2013 aux presses universitaires de France et plus récemment vous avez écrit Un village français, une histoire de l'occupation. Alors ce livre est paru en 2017 aux éditions La Martinière. À ce propos, la série qui était formidable n'était pas suffisante, il fallait une explication de texte.
Bah écoutez, je pense qu'il est important d'écrire sur les séries pour leur permettre d'entrer dans la culture populaire vraiment et la mémoire, parce que on l'a vu avec Belphégor et j'espère que ça a éveillé des tas de souvenirs chez les téléspectateurs. Les séries françaises sont très rarement rediffusées, surtout les anciennes, et donc on a toujours l'impression, la presse parle tout le temps de renouveau de la série française, comme si ces séries n'avaient pas
existé,
d'histoire, oui, de mémoire, et vraiment marqué, je crois, les Français et tout un imaginaire, notamment autour de Belphégor, et je crois que c'est vraiment la rencontre entre une fiction et son public à un moment très particulier qui est l'année 65.
Marjolaine Boutet, moi j'ai un avantage sur vous aujourd'hui, c'est que moi j'ai vu cette série. Alors je le dis quand
moi
même,
aussi,
j'étais
vu.
Tout petit. Non, c'est pas possible. J'étais
tout petit. 65.
Ah bah voilà, moi je l'ai vu en direct, mais j'étais tout petit, je le dis quand même. Et c'est parce que j'étais petit, avant d'être un peu moins petit, que j'étais fasciné. Pour un gosse, c'était un truc de fou. Mais vraiment, on attendait le samedi soir et on voyait ce masque de fer. Hein. Et puis ces deux mains qui passaient devant le masque. Et moi, j'avais une trouille énorme. J'avais 7 ans. Bien. Mais pour ce qui concerne les adultes, être téléspectateur dans les années 60, à l'époque, c'est quoi? C'est quoi le profil du téléspectateur des années 60?
Alors, en 1965, il y a un peu moins de la moitié des Français qui ont acheté un poste de télévision. Un poste de télévision en 1965, ça coûte 1500 nouveaux francs. Le site de l'INSEE dit que c'est à peu près 2000 euros d'aujourd'hui, donc c'est quand même une somme. C'est évidemment un poste en noir et blanc. On parle vraiment de petit écran parce que la diagonale de l'écran fait entre 30 et 50 centimètres, donc c'est vraiment pas très grand. Et ce qui explique aussi le succès de Belphégor, c'est, on l'a entendu avec ses extraits, c'est cette musique vraiment très prenante
aussi,
qui crée le mystère. Et le travail aussi de Claude Barma sur la lumière. Vous parliez de ce masque et de ses mains. Vraiment, c'est un tour de force de faire apparaître ce masque très très noir sur des écrans qui sont gris, et vraiment ce travail sur la lumière, le son, et puis les voix évidemment de Juliette Gréco, d'Yves Régnier, de Christine Delaroche aussi, qui a vraiment une très belle voix, je trouve, qui évidemment marque les téléspectateurs, parce qu'encore une fois, on est sur de l'hertzien, il n'y a pas de télécommande, il n'y a pas de magnétoscope. C'est forcément simultané. Sur les postes, il y a des boutons poussoirs sur les plus perfectionnés. Et sinon, ce sont des molettes qu'on tourne. Hein, ça évoque des souvenirs. Quand on a des maisons individuelles, parfois, on doit monter sur le toit pour orienter l'antenne dans la bonne direction. Enfin, donc, il y a vraiment un côté très technique, hein, de regarder la télévision. L'image n'est pas toujours parfaite, mais vraiment, je crois, et c'est Claude Barma avec Belphégor, travaille l'image et fait un vrai travail de réalisateur et pas seulement des séries qui étaient surtout fondées sur les dialogues jusqu'à ce moment-là. Et je crois que c'est ça qui fascine, c'est vraiment ce côté lucarne enchantée que l'on trouve dans son salon.
Alors, vous me direz, il n'y a pas de concurrence à l'époque, mais on fait quand même, Belphégor fait entre 10 et 15 millions de téléspectateurs. À l'époque, le pays, la France, compte à peine 50 millions d'habitants.
Oui, et puis il y a 6,5 millions de postes de télévision en France en 1965. Ouais. Donc, 10 à 15 millions, ça fait au moins 2 personnes par poste. Et là encore, les gens se souviennent qu'ils sont allés voir Belphégor chez les voisins pour vraiment se rassembler. Et c'est ça qui est aussi très important. Intéressant avec la télévision de cette époque-là, c'est que ça rassemble. C'est vraiment l'expérience simultanée, comme au théâtre, mais évidemment multipliée à l'échelle d'un pays. Et on l'a entendu dans le micro-trottoir pendant votre récit, les gens qui ratent évidemment un épisode appellent leurs amis pour savoir.
Il n'y a
pas de replay, évidemment. La presse s'en empare. Il y a une novélisation dans les journaux qui raconte ça. Et puis, c'est vraiment le France Inter en parle, la presse en parle. Donc, on fait ses choux gras. C'est aussi la première enquête. On va enquêter dans les écoles maternelles pour avoir l'effet de la violence sur les petits-enfants. Vous avez dit que vous avez 7 ans, donc... Peut-être qu'on vous a fait le test Belphégor pour savoir si ces images de violence allaient évidemment traumatiser les enfants. Donc il y a déjà vraiment à la fois une fascination et aussi une inquiétude vis-à-vis du pouvoir de la télévision.
Il y a un côté éducatif aussi, puisqu'on ramène ça à l'enfance. Hein, pour le coup, c'est très classe. C'est-à-dire qu'on est au Louvre avec une très belle pièce. Belphégor, c'est une belle pièce de Louvre, d'exposition en fait. Et les gamins se disent « Ah ben ça c'est un endroit important dans la vie ». Et ça,
oui,
c'est bien vu quand même.
C'est bien vu parce que c'est un mélange de modernité et de tradition, Belphégor. Donc, c'est un roman de 1927, mais Claude Barma le situe vraiment dans le Paris de 1965. Et ça, pour l'historienne que je suis, c'est formidable parce que c'est tourné en décor réel. On voit Paris et le Louvre en 1965. Donc, c'est très moderne. Et puis, il y a vraiment ce fantastique tiré d'une culture populaire que les gens connaissent. L'alchimie, l'hypnose, sont des choses qui ont toujours fait fasciné les foules, l'Égypte évidemment avec ses momies, ce réveil, la fascination de la mort bien sûr qui rôde en permanence dans cette série. Donc il y a vraiment un mélange voilà d'ancien et de moderne qui fascine et qui parle au plus grand nombre. Et je crois que c'est vraiment ça qui fait que il n'y a pas eu d'équivalent par la suite, si ce n'est probablement Holocaust, la série américaine qui a été diffusée en France en 1979. Il n'y a pas eu d'autre feuilleton qui a fait autant parler à ce moment-là, parce que c'est vraiment une rencontre avec le public.
Marlène Boutet, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Gabriel's Blame.
Mornings turn to night, and then the night becomes the day. I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when I knew can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Lies and shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while. Said what I say, it don't matter to me. Can't be a slave if I'm already free. Can't be a captive if it's where I wanna be. Slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down?
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Nous parlons d'une série télévisée mythique, Belphégor. Nous en parlons avec Marjolaine Boutet, historienne, spécialiste des séries. On rappelle que Belphégor avait un petit côté Covid avant l'heure, parce que c'était sous un masque. N'empêche que, et on va retenir ça au-delà de la boutade, derrière le masque, il y a une femme. Une femme pour héroïne, en 1960. Hein, quand même une décennie bien misogyne. La France des Beaufs, avant mai 68. Une femme, c'est classe aussi ça.
Oui, une femme et même deux, puisqu'il y a aussi le personnage de Colette. Et vraiment, dans cette série, je parlais de modernité, les femmes sont des femmes fortes. Et le personnage du héros joué par Yves Régnier est en réalité manipulé.
Absolument, par les femmes.
Et tiraillé par ces deux femmes qui le séduisent vraiment plus que lui ne les séduit. Et donc, il y a vraiment une représentation de ces femmes. Alors, on peut pas parler vraiment de féminisme ou de femme libérée puisque ça se termine par un mariage et que la tentatrice se suicide. Donc l'honneur et la morale est sauf. On est quand même sur l'ORTF de 1965 et dans la France du général de Gaulle. Mais malgré tout, cette puissance séditrice de Juliette Gréco, c'est la femme fatale et ça rappelle effectivement les heures du muet et ces personnages de femmes exotiques, brunes, fascinantes. Et là aussi, évidemment, ça ça plaît beaucoup, je pense, aux adultes de 1965.
Alors, sont diffusés des films aussi à la télévision, on s'appelle des films, voilà, one shot. Qu'est-ce que la série apporte de plus qu'un film ? Pourquoi on est accro aux séries comme ça, dès les années 60 ?
Alors, la série apporte quelque chose de fantastique qui est l'attente. C'est la phrase de Clémenceau qui disait que le meilleur moment dans l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Et le meilleur moment dans la série, c'est quand on attend la fin. J'ai un collègue qui a écrit, Florent Favard, qui a écrit un livre qui s'appelle « La promesse du dénouement ». Sur les séries télé, et c'est effectivement ça, c'est la promesse d'une fin, et on attend cette fin. Et là, on attend pendant un mois de savoir se cache donc derrière le masque de Belphégor. Évidemment, la fin, elle est toujours décevante, et de Belphégor à Lost, plus récemment, on est toujours déçu par la fin, et c'est pour ça que les fins de séries sont très difficiles pour les fans. Parce qu'en réalité, et c'est ça qui fait le succès aussi des séries américaines, c'est que cette promesse du dénouement, elle est...
C'est
repoussé à l'infini,
et
ça peut durer 10 ans, 15 ans.
C'est aussi un rupture.
C'est un deuil.
Il y a un deuil.
C'est un vrai deuil. On quitte.
C'est fou, hein, quand même.
On quitte des personnages
auxquels on s'est attaché.
On s'est attaché, avec lesquels on a passé du temps, avec lesquels on a vieilli. Hein. Il y a le cas de la série Friends qui a duré 20 ans et qui est vraiment. Pardon, pas 20 ans, mais 10. Mais qui est.
Ou Fais pas ci, fais pas ça en France. Fais pas ci, fais pas ça en France.
Fais pas ci, fais pas ça, absolument.
Les acteurs prendre de l'âge.
Et on voit les enfants, voilà. Devenir adulte, avoir des enfants à leur tour et on vieillit avec eux et c'est vraiment cet art du temps. Vraiment, la série télévisée, c'est un art du temps.
D'accord.
Et ce qu'on a perdu avec les plateformes, c'est cette attente et aussi vraiment ce côté rendez-vous simultané où on attend le nouvel épisode de telle ou telle série. Et encore aujourd'hui, avec les feuilletons comme Plus belle la vie, les gens attendent tous les jours de connaître la suite de leur personnage préféré.
Alors, aux antipodes de Plus belle la vie, moi je pense à 24 heures et je me dis que peut-être 24 heures constitue un tournant dans l'histoire des séries par la mise en scène extraordinaire, l'écran découpé, le rythme, quelque chose de très puissamment cinématographique. On a quelques secondes, je suis désolée.
Oui, alors c'est écrit pareil en fait, hein, Plus belle la vie et 24 heures chrono. Effectivement, il y a plus de moyens derrière 24 heures chrono, mais ce qui a fait le succès de Plus belle la vie, c'est précisément de remettre du suspense et des méchants. 24 heures chrono, c'est évidemment une série très importante parce que c'est l'Amérique du post 11 septembre et cette illusion du temps réel, hein, on parlait encore de cet art du temps, elle est effectivement propre à 24 heures chrono, avec ce concept formidable qui est, on a 24 épisodes par an qui vont faire 24 heures d'une journée avec un héros qui ne dort jamais, qui ne va pas aux toilettes, qui ne mange pas, qui ne boit pas.
Merci Marjolaine Boutet, merci pour votre passion qui est communicative sur les séries. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Belphégor, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Caillet. Tiens, j'en connais un autre fan des séries, enfin certaines séries j'imagine. Antoine Decaune, bonjour.
Belphégor, ça me foutait les jetons quand j'étais...
Alors on est bien d'accord. Et moi aussi je l'ai dit tout à l'heure.
Oui, absolument.
Ah ouais.
Bah, nous étions ensemble, Fabrice, bon, je vous rappelle. Fabrice,
pas le dire.
Vous aimez le polar ?
Oui, bien sûr.
Vous aimez la nuit ?
Oui.
Vous aimez le jazz ?
Oui.
Alors vous allez frissonner aujourd'hui puisque nous recevons Jack Lamar, auteur d'un épatant polar qui s'intitule Viper's Dream.
Arrêtez, j'ai froid.
Ouais.
À tout de suite.
Tout de suite.